Si vous voulez bien. On peut afficher le texte qu'on va lire ce matin, si vous voulez le prendre, c'est en Matthieu 12. Mais je commençais par prier. Père, merci pour ce matin, Seigneur. Merci parce que tu es là, Seigneur, et nous le ressentons bien. Ta présence est palpable, Seigneur. Continue de nous plonger au cœur de l'œuvre de la croix. Nous voulons goûter à ton amour encore plus ce matin. Permets que cela descende, Seigneur, dans le fond de nos cœurs. Que ça vienne bouleverser nos vies, Seigneur. Merci pour tant d'amour. Amen. J'ai choisi pour ce matin un texte dans Matthieu 12, versets 38 à 42. Jésus fait des miracles, contexte juste avant. Et puis, il y a des scribes et des pharisiens qui viennent le voir. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent: Maître, nous voudrions te voir faire un miracle ou un signe. Il répondit: Une génération méchante et adultère demande un signe, un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a plus que Jonas ici. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Alors vous allez me dire, mais quel rapport avec la célébration de la Pâque et ce texte? Nous y viendrons un peu plus tard. Mais je voulais commencer par nous replonger encore dans le week-end de Pâques. Certains connaissent cette histoire. Corinne a pu retracer tout cela avec les tableaux. Mais peut-être que pour d'autres, c'est quelque chose qui est éloigné. Et on a commencé à le faire en parlant des souffrances que Jésus a endurées. La Pâque est pour moi le cœur même de l'œuvre du salut de Dieu. C'est le cœur. Et quand quelque chose est au centre, on doit le saisir. Aujourd'hui, nous nous rappelons de manière particulière que le Fils de Dieu, ce Jésus de Nazareth dont on parle depuis 2000 ans, s'est laissé arrêté, maltraité, humilié, transporté hors de Jérusalem, sur cette colline, ce mont Golgotha. Il a été cloué sur une croix aux côtés de deux brigands. Ce fut un vendredi matin. Après toute une nuit de procès, de jeudi à vendredi, il est 6 heures du matin. Le verdict tombe. Jésus sera crucifié. Démarre alors cette longue marche, endossant ce bois sur lequel il allait être cloué. Jésus est épuisé. Il a été frappé et lacéré toute la nuit. Il trébuche sur le chemin. Et un certain Simon lui prête aide pour tirer cette croix jusqu'au sommet de la colline. Il y a la chasse aux œufs à côté. Et ce Simon l'aide à porter ce bois de la croix jusqu'au sommet de Golgotha. Il est maintenant 9 h du matin. C'est l'heure. Les soldats placent Jésus sur le bois et ils enfoncent les clous dans les bras et dans les pieds. Jésus est élevé sur le bois et donné en spectacle comme un malfrat. Au bout de 3 heures, vers midi, il se passe quelque chose d'inhabituel, un peu comme une éclipse solaire. Le ciel s'obscurcit et il fait noir, presque nuit. Pourtant, il est midi. Le soleil est censé être à son zénith. Et au lieu de cela, les ténèbres envahissent toute la région de Jérusalem. Et ce phénomène va durer 3 heures. 3 heures. Jésus va passer les 3 dernières heures de sa vie cloué sur une croix et dans l'obscurité. Et puis vers 15 h, en plein après-midi, le cri le plus saisissant de toute l'histoire de l'humanité retentit. Le voile qui séparait la présence de Dieu d'avec les hommes, ce voile situé dans le temple de Jérusalem, se déchire. Il y a un tremblement de terre assez fort pour fendre les rochers et pour ouvrir les tombeaux. En Matthieu 27, versets 50 à 52, je pense que ça doit y être. Non, je vais oublier de le mettre, je vais le lire. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le temple, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Waouh. Waouh. Tous les petits-enfants sont passés à côté. Je voulais qu'on regarde un extrait d'une vidéo. Par contre, voilà, ça peut être un petit peu choquant pour les petits bouts de chou. Donc, si voilà, j'en vois pas, c'est bon. N'hésitez pas. Il est mis dans un tombeau. À la hâte, par un certain Joseph, qui dut se dépêcher de récupérer le corps, ôter les clous, envelopper Jésus dans un linge, le transporter jusqu'au tombeau avec l'aide d'un certain Nicodème, l'envelopper de bandes, d'aromates, probablement lui faire la toilette et rouler la pierre. Il avait moins de 3 heures pour faire tout cela, parce que la fête du sabbat devait commencer. Nous sommes vendredi soir. Il est 18 h. Jésus est mort et enterré. Pardon, je voulais pas jouer avec les émotions, hein, ce matin, mais je crois que c'est bien de nous replonger. C'est pas une histoire. C'est l'histoire de ce qui s'est vraiment passé. On va revenir à notre, voilà, notre texte maintenant. Et on va parcourir un petit peu certains versets. Matthieu 12, 39. Il répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle, un signe. Il ne lui sera donné d'autre miracle, d'autre signe que celui du prophète Jonas. Alors tout d'abord, je voudrais qu'on se pose la question, mais de qui parle Jésus? Qui sont ces personnes méchantes et adultères? Plus tôt, en Matthieu 7, Jésus s'adressera à ses disciples et à toute la foule en leur disant « Méchants comme vous l'êtes !» Wow. Paul, dans Romains 5, par exemple, emploiera l'expression « Lorsque nous » Il est chrétien, Paul, quand il dit ça. Lorsque nous étions ennemis de Dieu. Eh bien, je crois qu'il ne s'agit pas seulement des Juifs à Jérusalem il y a 2000 ans. Il s'agit de toute l'humanité qui ne connaît pas Dieu, incluant vous et moi avant de rencontrer le Seigneur Jésus. Et que dit Jésus à cette humanité? Tu auras le signe de Jonas comme témoignage principal. Et qu'est-ce que ça veut dire? Bien, il nous est dit que, et ceux qui ont lu l'histoire de Jonas, il a passé 3 jours dans le ventre d'un poisson au fond de la mer. C'est peut-être cette histoire qui a inspiré Pinocchio. Il a passé 3 jours au fond de la mer. Et dans la Bible, un des symboles très forts de la mer, en fait, c'est celui de la mort. On trouve ça en Apocalypse 20. Un lieu où il y a une lutte entre la vie et la mort. Un lieu d'où sort la grosse bête d'Apocalypse 13. Un lieu où le sang coule. Apocalypse 8. Jonas a passé symboliquement 3 jours dans le lieu de la mort, parce qu'il était une des préfigurations. Il annonçait Jésus. Mais Jésus, lui, a réellement passé 3 jours dans le séjour des morts. Il y a plus que Jonas. Du vendredi 15h jusqu'au dimanche matin, Jésus, lui la personnification de la vie, a affronté la mer, symbole du séjour des morts. Alors que les personnes autour de Jésus lui demandent un signe, Jésus leur répond, Je suis le signe. En disant, vous aurez le signe de Jonas, Jésus annonce qu'il est celui que Jonas a annoncé. Mais pas que Jonas, tous les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé la venue de Jésus. Jésus, en fait, est en train de leur annoncer que la Pâque arrive. Et puis, par deux fois, dans le texte que nous avons lu, au verset 41 et 42, Jésus va reprendre en fait sa thématique de tout le chapitre. Si vous avez le temps à la maison, ce soir, vous pouvez relire le chapitre. Et la thématique principale de ce chapitre 12, c'est le jugement de Dieu. Et par deux fois, Jésus va reprendre cela. Jésus est en train d'expliquer à son auditoire qu'il n'y a pas de chemin pour y échapper. Le jugement de Dieu va venir. Et il va venir de toutes parts, du nord, la carte d'après, Ninive. Ils vous condamneront. Vous voulez fuir au sud? La reine du midi, elle est là. Elle va vous condamner. Il n'y a pas de direction où aller pour y échapper. Et la condamnation liée à ce jugement, c'est la mort. Jésus est en train de prêcher à son auditoire qu'il va mourir, que l'auditoire, pas Jésus, mais l'auditoire va mourir, et qu'il n'existe aucun endroit où courir pour se réfugier. Waouh! Je ne sais pas si vous saviez, mais le plus grand prédicateur du jugement de Dieu et de l'enfer, c'est Jésus. C'est lui qui en parle le plus. Et c'est donc ce que je nous prêche, parce que bien sûr je suis avec vous ce matin. Alors nous sommes loin de la chasse aux œufs au chocolat, hein, je suis désolé. La célébration de Pâques n'est pas juste un moment fun où l'on se goinfre de chocolat et de bons repas. La fête de Pâques est un moment où les chrétiens se rappellent le jugement de Dieu et la mort éternelle associée au péché. Cette mort qui ravage l'humanité et toute la création. Jésus nous dit donc, l'humanité dans son ensemble est méchante, elle est perverse, elle est orgueilleuse, elle est ennemie de Dieu et elle n'a pas d'endroit où se cacher loin de la colère de Dieu qui va précipiter hommes et femmes dans la mort éternelle. C'est ça le message de Pâques. Il n'y a pas d'autre solution au péché que la mort. Nous sommes en l'an 30-33. Il est vendredi. Il est 15 heures. Le jugement de Dieu est tombé. Excusez-moi. Jésus-Christ, après avoir poussé un grand cri, est mort. Ésaïe 53, versets 4. Et 5. Jésus est mort. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus n'est pas mort car il était pécheur, car il aurait commis une quelconque faute. Même Ponce Pilate, le gouverneur de l'époque, a déclaré « Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort ». Jésus-Christ est mort à cause de moi. À cause de mon péché. à cause de mes fautes. Jésus a subi le calvaire de la croix par amour pour moi. Il est mort à ma place pour payer la rançon de mes fautes. Et je crois que célébrer Pâques, ça a pour but de nous garder admiratifs et reconnaissants, jour après jour, année après année, face à l'œuvre de Jésus sur cette croix. Waouh! Quel amour! Jésus nous rappelle ce matin le signe de Jonas. Il a passé 3 jours dans le séjour des morts à cause de nos fautes, à cause de notre désobéissance, à cause de notre péché. Seigneur, on veut saisir l'occasion ce matin encore pour te dire pardon. Pardon pour mon péché. Pardon pour mes fautes. Ce sont elles, c'est lui qui t'a poussé à monter sur cette croix et à endurer ces 3 jours de supplice. Parce que tu m'aimais. Alors nous voulons te redire ce matin, nous t'aimons en retour, Seigneur. Nous t'aimons. Et nous sommes reconnaissants de ton œuvre à la croix. Mais on l'attendait celui-là. Hein. Pardon. Mais il y a des mots qu'on aime. Hein. Je les aime, c'est mais dans la Bible. Mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Alors que le châtiment éternel de Dieu est destiné à écraser de manière définitive, éternelle, ce qui s'oppose à Dieu, seul Dieu lui-même pouvait endurer ce châtiment. Et qu'est-ce qui se passe à la fin du week-end de Pâques? C'était ce matin, c'était un dimanche matin. La mort n'a pu le retenir. Acte 2, 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Luc 24, 5. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Jésus s'est relevé après être descendu dans le séjour des morts. Il est ressuscité et il vit. Samuel a cité le verset qui arrive, Apocalypse 1, dans sa prière tout à l'heure. Apocalypse 1, 18. Je suis le premier, c'est Jésus qui parle, et le dernier, et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus détient désormais les clés de la mort. Cela signifie qu'il a le pouvoir d'appeler à la vie ceux qui sont morts. 1 Corinthiens 15, 20 à 22. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Et Jean 11, 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Alors qu'il était impossible d'échapper au jugement de Dieu, alors qu'il n'existait aucun endroit pour fuir loin de la mort, Jésus-Christ a ouvert un chemin et créé un lieu de refuge. Il nous a cachés en lui. Colossiens 3:3. Il nous a pris avec lui dans sa mort. Romains 6. Afin que nous soyons au bénéfice de sa résurrection, comme on vient de le lire. Voici le message de Pâques. L'humanité est enfermée dans l'esclavage du péché et est destinée à la mort. Le châtiment éternel de Dieu est tombé sur le Fils de Dieu. Jésus a enduré le calvaire de la croix et passé par le séjour des morts, mais la mort n'a pu le retenir. Par la puissance du Saint-Esprit, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et lui a donné les clés du séjour des morts. Grâce à sa mort et à sa résurrection, Jésus peut offrir désormais la vie à tous ceux qui répondent à son appel. Waouh ! Finirai par ce verset dans Hébreux 7, 25. C'est aussi pour cela qu'il, donc bien sûr Jésus, peut sauver parfaitement. Waouh ! C'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Est-ce que certains parmi nous ont perdu espoir de prier pour un proche? Ça fait plus de 20 ans que je pleure aussi, mais que je prie pour mon papa. Il n'est toujours pas au Seigneur. Mais ce verset m'aide, parce qu'il n'y a pas que moi qui prie. Jésus prie. Jésus prie. Waouh ! C'est ça le message de Pâques. Il est ressuscité. Il a dans ses mains les clés du séjour des morts. Et il prie pour le salut des âmes. Waouh! Je vais vous inviter à vous lever, on va prier du coup.